La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça.
Quel avenir pour les médias? C'est la question posée par le Club de la presse Hauts-de-France lors d'une rencontre débat à l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes. 6 mois après la publication du rapport des états généraux de l'information et des états généraux de l'information de la presse indépendante, initié par l'État, journalistes, chercheurs, professeurs, rédacteurs en chef se sont réunis pour faire un bilan des résultats et réfléchir sur un plan d'action. Philippe Alien, rédacteur en chef de libertéactu.fr et président du Club de la presse Hauts-de-France.
L'idée est née l'an dernier. À la suite de notre colloque sur les ordonnances de 44, les phénomènes de concentration de presse, etc. etc. Il y avait à cette journée deux maîtres de conférences de Valenciennes en sciences de l'information qui ont été intéressés pour faire une sorte de suite et ils nous ont demandé si on pouvait bosser ensemble. Voilà, donc évidemment, nous avons dit banco tout de suite.
Et puis, vous avez inclus cette journée avec le dossier aussi des états généraux.
Mais en fait, c'est ça le but. Alors, l'an dernier, les états généraux étaient en cours de réalisation. Là, nous pouvons parler de ce que ça donne. Le rapport est sorti il y a déjà quelques mois, un rapport de 300 pages. Le travail qui a été fait par les états de la presse indépendante, qui ne sont pas des contre-propositions, mais qui s'y attaquent à travailler en plus. Et donc là, nous voulons faire un bilan de ce qui est sorti et de ce qui sera possible de faire pour les décennies à venir dans la presse.
Jacques Transeau, journaliste et cofondateur de Médiacité, média en ligne d'investigation locale dans la métropole lilloise.
Alors j'y suis parce qu'on m'a gentiment invité et j'ai répondu bien volontiers parce que le thème de la journée d'aujourd'hui c'est quel avenir pour les médias ? Et c'est une question majeure. Moi je suis journaliste depuis 30 ans et donc l'évolution de mon métier m'intéresse parce qu'il est mal en point. Il est mal en point pour plein de raisons. Déjà parce que économiquement, ça se passe pas bien du tout. Il est mal en point aussi parce que les gens se défient un petit peu des journalistes. Ils n'ont pas trop confiance. Ils estiment que les journalistes sont souvent du côté du manche, c'est-à-dire du côté du pouvoir, connivant, voire corrompu. Donc moi, j'explique ce qu'il en est vraiment. Il y a des reproches à faire à la profession, mais il faut aussi la défendre. Et je suis là pour la défendre. Et je suis là pour la défendre parce que c'est un beau métier. C'est un beau métier dont on a besoin pour faire des bons choix dans sa vie, des choix de citoyens. Et donc, comme ce métier est bousculé, il faut qu'on réfléchisse à son devenir et à la façon dont on consomme, en quelque sorte, de l'information.
Comment ramener les gens vers l'information et éviter toute cette défiance ?
C'est une question importante, radicale. Vous savez, la porte d'entrée de l'information, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, vous trouvez tout et n'importe quoi. Donc, comme c'est gratuit, que ça arrive directement sur votre téléphone, vous êtes souvent inondé par du contenu que vous n'avez même pas choisi. Et puis vous dites, ça c'est de l'info. Mais en fait, c'est pas toujours de l'info. Parfois, c'est des gens qui diffusent du contenu. Parfois, c'est des gens qui diffusent du contenu parce qu'ils sont aidés par des annonceurs publicitaires. Parfois, c'est des gens qui veulent convaincre de leurs idées. Mais est-ce que leurs idées sont bonnes ou pas bonnes ? Mais en gros, une information, c'est pas du contenu. Une information, c'est un objet avec de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le professionnalisme du journalisme qui est derrière cette information, qui a vérifié, qui a trié, qui a recoupé, comme on dit dans le jargon du métier, pour que on s'approche au plus près de la vérité des choses.
D'où aussi beaucoup d'ateliers d'information, d'éducation aux médias pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. C'est nécessaire aujourd'hui de faire ces ateliers pour leur montrer comment on fabrique de l'information.
Parce qu'elle ne tombe pas du ciel, l'information. Il y a forcément quelqu'un derrière, ou il y a forcément une intention derrière. Donc de la même façon qu'on doit s'intéresser par exemple à la qualité de l'eau du robinet pour savoir si elle est bonne à consommer ou pas, de la même façon que on s'intéresse pourquoi pas à ce qu'il y a dans son assiette, est-ce que c'est des produits de qualité, est-ce que la viande est avariée. Donc pourquoi est-ce qu'on ne s'interrogerait pas sur la qualité de l'information? Si on ingurgite en quelque sorte une information périmée, avariée, fausse, on s'empoisonne. Et d'où l'importance de comprendre comment ça marche. Comment est fabriquée l'info? Qui est derrière? Est-ce que c'est sérieux? d'où ça sort. Et donc ce rapport un peu critique, cet esprit critique par rapport à l'information, ça doit être partagé auprès d'un maximum de personnes.
Que faites-vous, vous, au sein de Médiacité, pour amener l'information aux habitants? Quel travail faites-vous?
Alors nous, notre spécialité, c'est l'investigation, c'est-à-dire l'enquête approfondie. Si on peut, on publie des scoops, donc on révèle des informations, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On contribue à essayer de les révéler, et on a une approche la plus professionnelle possible. Et pour essayer de regagner la confiance du public, eh bien, on est transparent, c'est-à-dire on dit qui on est. Par exemple, on publie nos déclarations d'intérêt. Voilà. Est-ce qu'on a, par exemple, des engagements politiques qui pourraient perturber la façon dont on écrit? Est-ce qu'on a des engagements associatifs, etc. On est transparent sur les comptes, on est transparent sur l'actionnariat qui est derrière. On n'a pas de publicité, parce que la publicité souvent brouille l'information. Et on essaye de convaincre les gens que l'information a de la valeur, donc un prix. Et chez nous, Médiacité, c'est 7 euros par mois ou 69 euros par an.
Faut-il alors publier ses sources?
Alors, on ne publie, au sens où on ne communique jamais ses sources. Hein. Ça, c'est quand même le béaba du métier. En revanche, on s'appuie sur les idées de notre public et les suggestions d'enquête qui nous sont communiquées parfois par nos abonnés, qui nous disent « mais regardez dans cette direction-là, parce qu'il se trouve qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Vérifiez, s'il vous plaît. Voilà. » Donc, on s'appuie sur des sources, mais on ne communique jamais les sources. Qui nous a donné l'info?
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe toujours comme ça.
C'est un métier qui, moi, ça fait 30 ans que je le fais, donc au départ, il était valorisé. Maintenant, je dois m'excuser d'être journaliste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Parce que pourquoi j'ai fait ce métier? C'est pour transmettre de l'info de la façon la plus honnête possible et la plus professionnelle possible. Hein. Donc moi, j'ai l'impression, quand j'écris des articles, j'y passe beaucoup de temps, de l'énergie, de la sueur, du professionnalisme. J'ai presque envie de dire que je fais un cadeau au lecteur, c'est-à-dire que je donne le meilleur de moi-même. Voilà. Et pour moi, ça a une valeur. Le problème, c'est que dans l'opinion publique, ça n'en a plus, puisque plus personne veut acheter de l'info, puisqu'il y a énormément de contenu gratuit qui tombe, comme je le disais tout à l'heure, directement sur les téléphones.
Dernièrement, Facebook aussi qui a supprimé la modération aussi des informations. Donc une information peut tomber, vraie ou fausse, en tout cas elle peut être publiée sur les réseaux sociaux. Ça vous inquiète?
Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de fake news, c'est-à-dire de fausses informations qui sont délibérément divulguées sur les plateformes, donc Facebook par exemple. Et c'est pour ça que le patron de Facebook, pendant longtemps, il payait des gens qui contrôlaient un petit peu le contenu. Et puis, en fait, il s'est passé que Trump est arrivé et que Trump est dans une idée de liberté absolue d'expression. C'est-à-dire que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, y compris des conneries. Et donc Zuckerberg, pour être bien avec Trump, il a dit « Ok, moi j'arrête la modération, et tant pis si il y a du contenu avarié qui est diffusé, les gens feront le tri. » Mais moi j'estime comme journaliste que c'est très difficile de faire le tri, et qu'il faut plutôt faire confiance à des artisans de l'info que sont les journalistes, plutôt qu'à n'importe qui brasse du contenu sur les réseaux sociaux.
Vous excusez presque d'être journaliste. Aujourd'hui, c'est encore peut-être plus difficile qu'avant d'être journaliste.
C'est plus difficile parce que les conditions d'exercice ont considérablement diminué, baissé. Le métier s'est considérablement précarisé. Et donc, c'est très compliqué de trouver l'équation économique pour rentabiliser une investigation. Vous imaginez bien qu'une enquête longue, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Et donc en face, si on n'a pas de publicité, parce qu'on estime que c'est bien de ne pas avoir de publicité pour jouer la transparence absolue et regagner cette confiance par rapport au lecteur, parce qu'il y a des biais, quand vous avez de la pub, vous avez plutôt tendance à faire plaisir aux annonceurs. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est soit les gens donnent, soit les gens s'abonnent, mais je ne vois pas d'autres solutions pour essayer d'équilibrer un travail qui est nécessaire pour expliquer le monde complexe dans lequel on vit, qui nécessite des vulgarisateurs, des enquêteurs, des passeurs. Et ça, il faut un minimum considérer qu'il faut arbitrer sur son argent quelques euros par mois, donc je répète 7 euros pour Mediacité par mois, et que ça vaut le coup.
Payer pour avoir de l'information juste, information vérifiée ?
Oui, parce que moi je pense que ça a une valeur. Je vois mal pourquoi cette activité pourrait être gratuite. Voilà. Alors on peut imaginer des dons, donc la gratuité mais en échange de dons, mais il faut quand même qu'il y ait un échange marchand, en ce sens que si vous n'avez pas de journaliste, eh ben vous perdez un moyen de comprendre le monde. Et quelque part, vous ne vivez pas de la même façon. Même s'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et que les gens ont plutôt tendance à se recroqueviller chez eux et à couper la radio, la télé ou les réseaux sociaux pour ne pas s'empoisonner, je pense que ce n'est pas une façon pertinente d'être citoyen, parce qu'un citoyen, il doit être actif, il doit s'intéresser à son environnement, sinon, autant être des moutons et choisir un dictateur.
Philippe Allienne, président du Club de la Presse Hauts-de-France.
Il y a du bon, il y a du moins bon. Parmi le bon, il y a par exemple un point qui est consacré à l'éducation aux médias. Mais malheureusement, les financements dans ce domaine sont en train de tomber. Ce qui est moins bon, par contre, il propose aussi de faire payer les GAFAM. C'est, comme on l'a dit ce matin, c'est très culotté, c'est très courageux. De là à dire que ça va se faire, on n'en sait rien. Et puis après, ce qui est moins bon, c'est tout ce qui concerne la gouvernance, par exemple, le fait de cette procédure d'agrément qu'on voudrait donner aux journalistes et qui pourraient se prononcer sur le choix de leur direction. Ça part de l'expérience du JDD, par exemple.
Le métier de journaliste, aujourd'hui, il est en danger ?
Alors le métier est en danger, la pratique du métier est en danger. La formation, elle sera toujours nécessaire. Ce qu'il ne faut pas, c'est se laisser confisquer notre métier. Les journalistes, ce sont des professionnels, on ne peut pas... Ça demande de la rigueur, ça demande une véritable pratique. C'est pas pour rien qu'il y a des écoles, il y a beaucoup d'écoles maintenant. On ne peut pas laisser les réseaux sociaux s'emparer de la formation sans vérifier, en faisant un peu tout et n'importe quoi.
On voit aussi l'essor de l'éducation aux médias et de faire en sorte que les citoyens participent aussi aux médias avec des ateliers.
C'est pour répondre à la défiance de plus en plus grande du public. On ne peut pas faire c'est ce qui a été dit aussi ce matin, on ne peut pas faire de la formation, on ne peut pas faire de journalisme si nous n'avons pas de public. Le meilleur article, s'il n'est pas lu, ça ne sert à rien. Il faut aussi ne pas négliger le journalisme de proximité, aller vraiment sur le terrain, rencontrer les gens, raconter la réalité des choses. Je crois qu'il faut déjà commencer par ça. Et malheureusement, nous sommes souvent débordés par des réseaux sociaux, mais aussi par des spécialistes des fake news qui disent tout et n'importe quoi, et par des chaînes qui sont aussi... Bon, je pense bien sûr à la galaxie Bolloré, je pense à des chaînes comme CNews, où des gens comme Pascal Praud, n'ayant pas peur de le dire, se permettent de dire n'importe quoi, d'affirmer des choses qui sont complètement fausses. Nous sommes dépassés, débordés par ça. Donc il faut revenir à une déontologie, une véritable déontologie de la presse, pour reprendre le pouvoir, en fait, et faire véritablement de la formation, qui est nécessaire, sinon, sans ça, il n'y a pas de citoyenneté.
Rencontre-débat. Quel avenir pour les médias à l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes, organisée par le Club de la Presse. Ce reportage a été réalisé par Joris Nincens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Moi c'est Joseph.
Et moi c'est Jim.
Mais dis-moi, Jim, que fais-tu ici ?
Comme toi, je suis en stage d'observation à Radio Campus.
Ah, alors tu ne fais qu'observer ?
Non, la preuve, je fais un jingle qui passera sur le 106,6 FM.
J'imagine que les auditeurs pourront aussi écouter ce jingle en DAB+.
Bien sûr, et l'on peut même retrouver des émissions en archives sur le www.campuslille.com.
Mais attention, seulement pendant 8 semaines.
Ouais.
On vous souhaite une excellente journée avec toute l'équipe de Radio Campus.
Sur ce, on vous laisse.
Ciao.
The prison was a standing on the radiator grill.
Ce sera Auguste. choisis pas de quel côté des rires on va. Moi j'ai pioché l'air imbécile qui caractérise le style. On m'a fait clown et puis voilà, sourire crucifié sur la voix. Paraît que les gueules qui font marrer ont souvent les joues mouillées. J'ai pas les savates ni les poids, mais il faut dire qu'on n'en change pas, que je sois de face ou de profil. Y'a ce putain de rouge qui l'habille. Je dois être le fils de la détresse, un soir de fête et de chansons. En gros, c'est par la maladresse. Sous une pluie de cotillons, ça fait un truc presque charmant. Quand je me balade, copain clopin, sourire aux lèvres et larmes aux yeux, sans jamais trouver le milieu.
J'accepte d'enlever mes gants. Je sais que j'ai la peau douce dans des tas de petits coins. Je sais que j'ai des vraies sœurs et que je suis une vraie rousse. Je sais ce que vous voulez, mais si vous prenez, payez.
Payez. Et l'amour, et l'amour. Tu te fiches dedans, tu te fiches dedans. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Pas un sous-vaillant.
Vous me prenez par les sentiments, vous me ferez perdre mon temps. Je veux bien tirer mes fourrures, vous verrez mon décolleté. Je veux bien ôter mes chaussures, c'est plus comme un tour danser. Je veux bien défaire ma ceinture, mais c'est tout ce que vous aurez.
Allez, et là, l'amour. T'es vraiment belle, on s'est pas trompé, on s'est pas trompé. T'es bien maraqué, t'es bien maraqué. Et tu vas nous faire claquer.
Oui, mais maintenant que j'ai commencé, tant pis pour vous, faut y passer. Je vais dégrafer le reste, et tant pis pour la pudeur. Je vais achever d'un geste de vous dévoiler. Porte-jarretelle, les bas de nylon, le soutien-gorge noir.
Et voilà que soudain, sans prévenir personne,
oui,
le
pas de projecteur, c'est nain.
Oh, ben on n'est pas vernis, les gars.
Jean-Claude, salut.
Eh ben, bonjour.
Jean-Claude Van Fleuteren, alias Jules Ramon, on ne te présente presque plus, ancien professeur des écoles, homme de théâtre avec la Colombine, homme de poésie, de lettres avec les Rosati, passionné de langue picarde que tu défends depuis les années 70, chroniqueur sur les ondes de Radio PFM, et on t'accueille à nouveau aujourd'hui pour parler du livre que tu viens de sortir. Alors je me concentre pour soigner mon accent, faudra être un petit peu indulgent auditeur auditrice. Le soleil cante d'un timbre fro.
C'est ça, le soleil il cante dans ton beffroi.
Le soleil chante dans ton beffroi, en bon François. Peut-être un mot d'abord sur la démarche qui t'a poussé à écrire ce livre.
Ben, d'abord parce que je commence à partir de l'âge, hein, donc je me suis dit, je vais quand même lécher un de ces quoi sur tiers, et puis voilà, j'ai rassemblé un petit peu de tout ce que j'avais écrit pendant des années, sur scène en particulier, tous les sketchs que j'ai pu faire, les contes, tout ça, voilà, hein. Et puis je me suis dit, bon, puis j'ai tout pour faire plaisir aussi à mes fûts, hein, mes trop fûts, et je dis qu'ils se n'est occupé chez Thomas, là-bas, qui habite dans la Drôme, donc c'est pas le pays du Picard, mais enfin, il a fait ce qu'il pouvait, parce que j'ai pas réussi à lui transmettre le passion du Picard, il ne parle pas un mot pour lui, c'est du chinois.
Voilà. Donc, l'idée de transmettre des textes que tu as écrits, il y a des traductions aussi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as fait pour sélectionner les textes? Parce que, voilà, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, voilà, tu as écrit beaucoup, beaucoup de textes aussi.
Alors, bon, j'ai marché par printemps, ce qui est au plus facile à comprendre, hein, pour que marcher. Parce que, comme on dit, quand on apprend à sauter à la corde, on ne marche pas à mettre le bar à 2 mètres de hauteur. Hein. Il faut être plus modeste que ça. Donc j'ai pris ce qui est au plus lisible parce que je sais que je n'ai pas aisé de lire le Picard. Hein. Donc j'ai pris les textes les plus courts. J'ai pas que j'y mes contes parce que les contes c'est long. Puis il faut que je sois illustré plus ou moins. Ce sera pour une autre étape éventuellement. Les pièces de théâtre j'ai fait pour être jugé. Donc j'ai pas pu non plus mettre ça dans un livre. Hein. Bon j'ai écrit par exemple j'ai traduit un Picard tout le pièce de Molière. L'amour au médecin par exemple. Là, c'est l'amour au médecin. Hein. Bon je peux pas mettre ça dans un livre quoi. Hein. Donc j'ai que j'y surtout des ce qu'on appelle des pasquilles. Hein, c'est-à-dire des petits textes, des petites poésies, des textes aussi à prose, hein, parce que pour montrer que c'est une langue comme un autre et qu'un peu un peu traduire aussi des textes en français, on les traduit en Picard, hein, normalement, chez le Picard, c'est une langue. Hein.
Dans une visée pédagogique, tu dis que tu as pris des textes simples au début, il y a aussi un glossaire, alors il n'y a pas de traduction, hein, mais il y a un glossaire qui explique certains mots voilà. Clés du texte,
voilà,
c'est ça hein.
Voilà, les glossaires ils sont placés, non pas à la fin, mais à côté du texte, hein, pour que ce soit plus simple pour le lire. Hein. Alors après, il y a des textes qui sont plus faciles les uns que les autres. Pour les premiers que j'ai écrits, j'étais pour des tios, hein. Tu as dit tout à l'heure que j'étais au professeur, ben oui, j'étais au professeur dans un collège, et j'avais un groupe d'enfants, une soixantaine d'enfants qui faisaient du Picard. Avec moi, ben longtemps avant d'avoir le dos, parce que j'étais dans les années 70, 76. Et donc là, j'ai des textes qui étaient compréhensibles par des enfants hein, qui ne pratiquent pas forcément cette langue-là, hein, surtout que dans le famille, elle ne parle plus. Hein, donc voilà, j'ai fait un show comme ça.
C'est un livre qu'on peut lire et qu'on peut lire aussi à voix haute parce que voilà, c'est vrai que c'est quand on le lit à voix haute qu'on parfois on comprend aussi le sens du texte.
Voilà, oui, bien sûr. Hein. Parce que c'est difficile de le lire du Picard, ça tout y était parce que c'est comme l'anglais. L'anglais, si tu l'apprends, tu finis par le lire sans problème. Hein. Ben, comme on n'a pas appris à l'école le Picard, c'est difficile de le lire et puis surtout de l'écrire. De façon que les gens ils se repèrent tout en n'étant pas trop proche du français, hein, pour bien montrer que je n'ai pas du français déformé. Donc c'est pas facile. Alors le mieux de tout, c'est de le lire à voix haute, en famille. Hein, et je trouve ça que ce sera une belle façon de remettre notre langue au goût du jour. Hein, parce que, voilà, bon, sinon, après, les orthographes, hein, les connaissent pas forcément, hein, les façons de l'écrire. Je dis les orthographes parce que ça dépend des endroits où on se trouve. Et donc ça, c'est pas encore vraiment Steiner disait, comme on dit, hein, chat va venir, chat comme un chat venir, il y a comme un chat. Il y avoir des ouvrages qui sont faits pour chat, pour qu'on parle tous de la même façon, puisque s'il faut la peinte à l'école, il faut bien que on utilise les mêmes mots, les écrire de la même façon, hein.
Alors, est-ce que tu peux nous lire peut-être un extrait? Quel texte tu as choisi là pour illustrer aujourd'hui?
Oui, alors pour montrer justement que c'est une langue comme une autre, on peut traduire des poèmes, et en particulier j'ai choisi Verlaine, hein, c'est pas un hasard, parce que Verlaine était vraiment amoureux, je veux dire, de la langue de sa mère, hein, le patois, le saint patois maternel, comme il disait, hein, et il l'a défendu à plusieurs reprises, et même au cours d'une conférence vers la fin de sa vie, en 1894 à Paris, défendre le Picard, c'était quand même pas évident, hein. Alors, ce poème, justement, c'est justement pour une jeune fille, il est fiancé, il a été fiancé, d'une jeune fille qui avait 16 ans, hein, on s'en souvient, Mathilde. Et il écrit ce poème en français, d'abord, puis je vais vous le traduire en picard. J'ai peur d'un baiser, comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Pourtant j'aime Kate, ses yeux jolis. Elle est délicate, aux longs traits pâlis. Oh, que j'aime Kate. C'est Saint-Valentin. Je dois, j'ai je n'ose lui dire au matin la terrible chose que Saint-Valentin. Elle m'est promise, fort heureusement, mais quelle entreprise que d'être un amant. J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. On le fait en picard, allons-y.
Vas-y.
J'ai les trôles d'un baisse, comme d'un moucamier. J'ai la pide Saint-Cessier. Je sais plus quoi et qu'est-ce, j'ai les troules d'un baisse. Malgré que j'ai qu'air quête, ses yeux tchokiki. Oh, blanche garlouzette, comme du lébouli, mon Dieu, que j'ai qu'air quête. Chez le Saint-Valentin, faudra dire qu'être cosse, lui dire au matin, d'heureuse dame caboche, que le Saint-Valentin. Allez, ma zézette, banheureusement, mais que casse-main tiède que d'être Saint-Nanin auprès des zézettes. J'ai les trôles d'un baisse, comme d'un moucamier. Je l'apite Saint-Cessier, je ne sais plus quoi et qu'est-ce. J'ai les trôles d'un baisse. Voilà.
Suite de notre entretien avec Jean-Claude Van Vleuteren, alias Jules Ramon, à l'occasion de la sortie de son livre « Soleil y cante d'un teint beffroi ». Tu parlais déjà avec Verlaine de défendre la langue picarde. Aujourd'hui, où on en est parce que bon, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a l'apprentissage du picard dans certaines classes d'école. Mmh. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, notamment plutôt autour d'Amiens. Mmh. Comment tu vois un peu les choses par rapport à ça, toi ?
Oui, bon, donc c'est, tu parles d'Amiens, c'est là où se trouve le centre disons, névralgique de la langue picarde, puisque c'est là que se trouve l'agence régionale pour le picard. Bon, c'est cet endroit-là que l'on a choisi parce qu'effectivement, c'est un endroit où on parle encore beaucoup le picard, en particulier dans le Vimeux. Hein. C'est un exemple qu'on peut donner. Mais bon, il en est pour autant, il est aussi important aussi de travailler chez nous, des ch'timis, cette langue. Bon, donc on a le droit effectivement de l'enseigner depuis la loi Molac, hein, qui a donné... le droit aux enseignants et même le devoir, d'une certaine façon, de garder ce patrimoine, de sauvegarder ce patrimoine linguistique, qui est un patrimoine comme un autre. Mais encore faut-il former des enseignants. Et c'est là que se trouve la difficulté. Pour l'instant, ça repose surtout sur les épaules de l'association dont j'ai parlé, l'Agence régionale pour la langue picarde. Il y a eu une ouverture d'une possibilité d'acquérir un diplôme universitaire à Amiens. Il y a encore une chaire de Picard à Lille, mais ne forme pas forcément les enseignants. Donc il y a eu une quinzaine d'enseignants qui ont été formés la première année, c'est-à-dire depuis 2022. Une deuxième cohorte l'année suivante avec le même nombre. Et cette année... par manque, semble-t-il, d'informations. Il y a peu d'enseignants qui se sont présentés. Et donc, ce diplôme a été supprimé. Moi, je pense que c'est surtout pour des raisons économiques, hein. Voilà, donc j'espère que ça sera. Il y a des réactions, bien sûr, dans les milieux picardisans, mais j'espère que ce sera rétabli pour l'année prochaine.
Alors, ton livre, Le Soleil, il cante d'Intin Beffro. Ouais. Donc, on peut l'acheter. Alors, il y a un point de vente à Arras.
Oui, bon, parce que malheureusement, bon, comme c'est la première fois que je fais ça, j'ai oublié de faire mettre. Enfin, c'est l'imprimeur, là-bas dans la Drôme, j'ai pas pu communiquer facilement. Il n'a pas mis code barre. Donc, vous savez que pour vendre un livre dans une librairie, il faut qu'il y ait un code barre. Hein. Donc, c'est la seule librairie qui a accepté de mettre son propre code barre, la grande librairie. Voilà,
la grande librairie Arras.
Arras, voilà. Ouais. Hein. Donc, il est en vente. Et on le voit bien, il est bien placé à l'entrée. Enfin, donc, je suis très content. Voilà. Et puis ensuite, alors là, c'est tout à fait bizarre de passer de la grande librairie à la plus petite librairie du monde, ce qui se trouve à Hesdin, dans la maison de l'abbé Prévost, hein, qu'on peut connaître, ceux qui ont peut-être étudié Manon Lescaut. Et donc, les heures d'ouverture sont indiquées là-bas sur place. Hein, c'est pas ouvert tout le temps, parce que c'est une association qui gère cette maison. Mais en tout cas, voilà, donc à Hesdin également. Hein, ce livre vous tend les bras, si je puis m'exprimer ainsi.
Merci.
Voilà, merci à toi.
Jean-Claude Van Flotteren, alias Jules Ramon, le livre « Le soleil y cante » d'Intin Beffro est disponible donc à la grande librairie à Arras et à la plus petite librairie du monde à Hesdin. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Les 7, 8, 9 juin 2025, l'association Léo Lagrange vous invite à sa 15e édition du festival Les Nobel Bretelles sur la place d'Erny dans le Valenciennois. Au programme des festivités, spectacle pour enfants le samedi après-midi, suivi d'une programmation rock. Le dimanche et le lundi, programmation variée, musette, rock, chansons françaises et festives, avec entre autres Les Désorientés, La Gapette, Les Petits-Fils de Janine. Festival gratuit et toujours non payant, restauration sur place. Renseignements sur bellebretelle.com.
is the carnival of your Mardi Gras dreams. Behold the daring young man on the flying trapeze. He's having a great life. He's living with inspiration. Start having a great life. She takes me twice around the world.
À sa face, à ce bouquet de fleurs dans le métro. Là derrière, c'est Rose. Une fille seule comme Rosa Parks me regarde, celle hypnose. À côté d'elle, ça c'est un bobo, beau comme Johnny Depp. Elle laisse mes yeux là sur le carreau, descend avec lui quand le train s'arrête. Et derrière, il me cache la fin de l'histoire. Ils sont comme s'il est Heidi ou Bush comme dit. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Parfois, c'est parfois, toujours ou jamais. Et c'est peu de le dire. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Nos cœurs incontrôlables, nos pigments mélangeables. En 44, ma grand-mère normande a vraiment eu chaud. Quand les bandes de boys ont débarqué, y en a un qui portait l'afro. Et derrière les dunes, cachés pour l'amour, pour mon histoire, ils sont comme si les Heidi plus que Bush et Candy. Tu vois. John et Yoko, Alain et Woolsey, Patrick et Harry, Cara et moi, Caro et Jean-Louis, comme si les Heidi, pas comme Bush et Colby.
Tu vois, tu vois, tu vois,
tu vois,
tu vois ce que je veux dire. Parfois, c'est parfois, toujours ou jamais. Et c'est peu de le dire.
C'est peu de le dire. Tu vois, tu vois, tu vois.
lieu de tournage du Arambert Creative Mine, sur le site minier de Wallers-Arambert, l'association lilloise Rencontre Audiovisuelle initie et fait pratiquer le 7e art au plus large public lors du Village des Enfants au Festival International du Court-Métrage ou lors du Mapping Vidéo Festival. Les habitants peuvent découvrir les métiers du cinéma et les coulisses de la fabrication d'un film d'animation. En visio, Carmen Boré, chargée de la communication ou rencontre audiovisuelle.
Alors l'objectif du Village des Enfants et de ses ateliers, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les habitants du territoire et surtout le jeune public. C'est vraiment notre événement vitrine de nos actions jeune public, de les sensibiliser aux images et sur comment on fabrique des images. Donc on va leur proposer différents types d'ateliers pour explorer différentes techniques de réalisation et d'animation. Donc il peut y avoir du dessin animé, du papier découpé, du tournage effets spéciaux sur fond vert, toutes sortes de choses pour voilà, comprendre comment les films qu'on voit, comment ils sont fabriqués, et puis peut-être donner envie de continuer de réaliser des petites animations à la maison ensuite. En fait, avec très peu de moyens, on peut nous-mêmes animer des petites séquences. Par exemple, on a déjà fait des ateliers de stop motion avec son doudou, qui plaisent beaucoup aux petits et aux parents aussi, parce que ça permet en plus de créer des moments de partage en famille.
Pour les novices, c'est quoi le stop motion ? Et racontez-nous justement cet atelier d'un stop motion avec le doudou.
Le stop motion, c'est la technique d'animation image par image. Ça veut dire que pour créer une image animée, on est traditionnellement autour de 24 images par seconde. Et ces images, mises bout à bout, forment une séquence animée. Donc, dans le cadre d'un atelier d'animation avec son doudou, nous, on installe en amont un petit décor qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, ça peut être par exemple un décor de chambre d'enfant. Et on va venir avec les enfants prendre des photos avec un doudou, par exemple, qui s'échappe sous la couverture. Donc, on déplace petit à petit, progressivement, le doudou de centimètre par centimètre pour le faire s'animer. Une fois qu'on a mis les images bout à bout, les enfants peuvent voir en direct les photos s'animer progressivement et donc assister au réveil de leur doudou.
Et que font les enfants ? Alors, ils animent leur doudou parce qu'ils pratiquent aussi.
Oui, le but, c'est vraiment de leur expliquer, mais de les laisser faire ensuite, une fois qu'ils ont toutes les cartes en main. Alors, on prend un petit temps pour leur montrer comment ça marche. On leur explique bien que pour que l'animation soit la plus fluide possible, il faut vraiment bouger tout doucement le personnage qu'on veut animer. Et à partir de là, on les laisse faire, on installe le décor, le doudou en l'occurrence, on prend une photo, on leur demande ensuite de déplacer le doudou, de ressortir du cadre à nouveau, on les fait reprendre la photo. Et en fait, ça marche très bien. Ça, c'est un atelier qu'on propose même à partir de 3 ans, c'est déjà possible de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, avec les plus grands, ça marche très bien aussi. Ils peuvent, eux, comprendre davantage que les petits, qui sont parfois un petit peu plus impatients. Mais vraiment, voilà, l'idée du Village des Enfants, c'est de montrer que tout le monde peut faire.
Faire comprendre aux plus jeunes ce que c'est le cinéma, c'est ça aussi votre rôle dans Rencontre Audiovisuelle. C'est pour certains le premier lien avec le cinéma.
Ouais, nous, c'est vraiment l'ADN de notre association, les Rencontres Audiovisuelles. C'était de faire découvrir le cinéma sous son format court et puis toutes les formes de cinéma, que ce soit le cinéma d'animation comme la prise de vue réelle, la fiction, le documentaire, toutes les formes de cinéma. Et ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, dans le cadre du Village des Enfants, on a aussi des projections en plus de ces ateliers où donc on programme des programmes de plusieurs courts-métrages. Alors ça dure environ une heure et demie selon l'âge des participants, et on montre vraiment toute la diversité de ce qu'ils peuvent faire, donc de l'animation 2D, de l'animation 3D, des films aussi en stop motion, donc comme je disais, donc c'est l'image par image en pâte à modeler par exemple, comme voilà, ces Gromit, Chicken Run, etc. Donc on essaye de montrer vraiment tout ce qui peut se faire pour donner envie d'aller creuser le sujet et découvrir de nouvelles formes.
Alors, qui anime ces ateliers ? C'est des encadrants ils sont professionnels du cinéma ?
Alors, c'est notre équipe principalement. Nous, aux rencontres audiovisuelles, on a tout un pôle qu'on appelle le pôle éducatif qui, tout au long de l'année, mène des ateliers audiovisuels. Donc, ils ont l'habitude d'encadrer ce type d'atelier. On peut faire appel également à d'autres structures dont c'est la spécialité. Donc, c'est des professionnels du cinéma qui ont l'habitude de travailler avec des enfants dans une perspective vraiment pédagogique. Et puis, c'est l'occasion aussi chaque année de mobiliser des bénévoles qui veulent s'impliquer eux aussi dans cet événement et puis donc qui viennent avec nous pour faire de la médiation sur ces ateliers.
Lors des ateliers des rencontres audiovisuelles, les habitants peuvent se livrer à leur créativité et à leur imaginaire. En plus de sensibiliser à la création numérique, ces moments festifs et culturels permettent une éducation à l'image.
Tout à fait, c'est exactement le terme nous qu'on utilise pour définir les actions qu'on mène tout au long de l'année, éducation aux images et aux médias. Il n'y a pas d'âge, non, et c'est important dès le plus jeune âge de toute façon de mener ce travail, bien sûr dans un usage tout à fait raisonné des écrans. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi à l'association, la sensibilisation sur les écrans. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment, nous on propose là des ateliers vraiment pour tous les âges, ça commence à partir de 3 ans. Il y a d'autres ateliers qui sont un petit peu plus techniques, qui peuvent être à partir de 7-8 ans par exemple.
Est-ce que ce lieu, le Arenberg Creative Mine, le site minier d'Arenberg, se prête bien depuis plusieurs années maintenant? Vous faites aussi une escale à Wallers-Arenberg, ça s'y prête bien? Il y a une ambiance déjà de tournage, de cinéma?
Oui, tout à fait. Le lieu, de toute façon, on le connaît principalement, je pense pour la plupart des gens, pour avoir servi de décor à des films, des séries, et puis depuis qu'ils se sont réhabilités en pôle audiovisuel, ça a vraiment du sens pour nous pour de nous installer là-bas. Et c'est tout au long de l'année, en fait. Là, on a le village des enfants dans le cadre du festival en octobre. Mais les rencontres audiovisuelles, c'est aussi le vidéomapping festival. Donc, chaque année, on propose un parcours sur le site minier au mois de mai pour découvrir cette fois une nouvelle forme audiovisuelle qui est le vidéomapping. On s'éloigne un petit peu du court-métrage, mais finalement, il y a un pont qui peut se faire assez facilement entre ces deux formes, puisque ça reste des formes audiovisuelles courtes avec lesquelles on peut raconter des histoires. Donc voilà, donc là, il y aura un prochain rendez-vous fin mai sur le site minier. Les dates, c'est le vendredi 30 et samedi 31 mai. Ce sera de 22h15 à 2h du matin. Donc une très belle occasion de en plus redécouvrir le site en nocturne, là où on peut habituellement pas le faire.
J'ai déjà assisté à une édition du mapping vidéo et c'est juste fantastique. On redécouvre le site minier et comment les artistes, avec l'image, s'emparent du site minier. Et finalement, le site minier qui ne ressemble plus à un site minier, mais qui est vraiment une toile, où c'est vraiment une œuvre d'art qui est en mouvement sur ces lieux emblématiques. Il faut vraiment le voir et découvrir et le faire partager. Derrière ce vidéomapping, il y a encore des ateliers avec des habitants.
Alors oui, sur certaines dates du festival, parce que c'est un festival qui est régional, on a une vingtaine de dates entre avril et octobre, on propose des ateliers vidéomapping avec les habitants des territoires. Ce n'est pas le cas cette année pour l'événement d'Arenberg Creative Mine. En revanche, on a depuis cette année une formation, un cursus métier du vidéomapping qu'on a installé directement là-bas à Arenberg Creative Mine. Et c'est le cursus technique vidéomapping qui est installé là-bas. Donc c'est une formation, un accompagnement à l'emploi qui est accessible aux personnes de 18 à 29 ans qui résident en région Hauts-de-France. Et voilà, et c'est une formation de 6 à 7 mois où on propose vraiment une formation à la fois théorique, mais surtout pratique et un accompagnement à l'emploi avec une immersion sur le terrain dans le cadre du Vidéomapping Festival, justement, où donc les apprenants inscrits en formation participent au Vidéo Mapping Festival. Du côté technique, comment on projette le vidéo mapping sur les bâtiments?
Eh bien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet et le Facebook des rencontres audiovisuelles pour avoir les informations. Quel public impacté? Est-ce que c'est les habitants de Wallers? Est-ce que c'est les habitants du Valenciennois? Est-ce que vous avez déjà sondé?
Oui, l'objectif de nos actions, c'est d'aller aussi vers les habitants des territoires. Donc, en premier lieu, c'est bien sûr les habitants de Wallers. En tout cas, on souhaite qu'ils s'approprient ces événements qui viennent, que ce soit le Village des Enfants, le Vidéo Mapping Festival, et plus largement, effectivement, le Valenciennois. Et puis, on a aussi du public qui peut venir de plus loin, notamment sur le Vidéo Mapping Festival, où, comme vous le disiez, c'est vraiment une super occasion de découvrir ce site qui fait partie de notre patrimoine à toutes et tous en région. Donc on a du public qui vient aussi d'un peu plus loin, bien sûr.
On parlait d'ateliers au cours de cette interview et de savoir, est-ce que y a différents ateliers pour différents publics? Donc ça veut dire que si jamais on est enfant et qu'on a envie de continuer à faire des ateliers cinéma, on peut le faire en étant ado, en étant adulte. Il y a une évolution aussi dans l'âge.
Oui, c'est le but. Hein. Nous, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tous les publics. Et donc, c'est ce qu'on propose au Village des Enfants. Il y en a pour tous les âges. Les parents peuvent également participer. Et puis, plus largement, nous, nos activités aux rencontres audiovisuelles touche toutes les catégories d'âge, tous les publics.
Rendez-vous les 30 et 31 mai au site Mie d'Arembert pour le Vidéo Mapping Festival. Plus d'informations sur rencontre-audiovisuel.org. Carmen Bourré, chargée de communication en visio. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Hello, my name is Evie. I'm from Nottingham, Wenham and Lille. I listen to Radio Campus on 106.6. Or I listen on www.campusleal.com.
Je crois en un seul Dieu, le compte en banque tout-puissant, créateur du fric et du crédit, du découvert visible et invisible. Je crois au tout à l'ego, à la hausse du pouvoir de crachat. Je crois en l'esprit singe. Je crois aux bactéries de missiles, aux missiles de croisière. Je nous crois capables du malheur comme du pire. Je crois à l'exaction des chefs d'État, au sucrage universel, à la sainte bêtise cathodique. Et je crois, je le crains, à l'envie éternelle.
Tu lis ton horoscope, tu cherches ta bonne étoile. La petite sirène de Copenhague va épouser le mannequin de Pise. Sonner les cloches de Notre-Dame, de Big Ben et de la tour de Pise. Béni par l'archiduc d'Autriche au son d'une valse de Chopin. Les époux scelleront à Maastricht l'union des carpes et des lapins. Puis ils consommeront sous douane le mariage et le vin teuton. Pizza pure malte et macédoine, dans de la vaisselle en laiton. Du Grand-Duché du Luxembourg, ils fileront ni vu ni cosy. Passeront sous la porte de Brandebourg et s'envoleront pour Helsinki. Mets ta belle robe, l'Europe, tes 25 bigoudis. Laisse tomber l'horoscope, ton ventre s'arrondit. L'Europe attend des sextuplés. l'Amérique et George Bush B. Les prénoms sont déjà choisis, ils s'appelleront démocratie, droits de l'homme, solidarité, environnement, croissance et paix. Si bambin qu'il faudra nourrir, éduquer, soigner et blanchir. Grosse commission en perspective et belle bataille de polochon pour leur donner des directives, une solide constitution. Mais plus de 20 langues maternelles, ça fait pas des consensuels. À force de rêver ses envies, on se prend les pieds dans l'utopie. T'as pas bonne mine l'Europe, t'as 25 ganglions, tu risques la syncope, le cancer des nations. Je crois aux Amanis de Finlande, aux troupes de Psychoslovaquie, aux déchirures sanguinolentes, aux épanchements de Slovénie. Je crois aux bourrelets de Grèce, à une surcharge Portugal, épidémie de Budapest, tassement de la Pologne vertébrale. Je crois au virus de l'Anglish, à une Europe tétrabelgique, difficulté neuromotrice, manipulation transgénique, aux crises d'Italie convulsive, aux accidents sous le pont de l'Allemagne. Mais je garde, quoi qu'il arrive, une toute petite lueur d'Espagne. Ne fais pas de bile l'Europe, tes gosses sont des voyous. Arrête les psychotropes, c'est le monde qui est fou. Aux parodies sur Terre, je crois en George Bush le père, en W son fils inique, conçu de la Vierge Amérique, qui a souffert sous Ben Laden, flirté avec Saddam Hussein, fut crucifié par Al-Qaïda, materné par Condoleezza, est mort de trouille au Ground Zero, a pris sa panoplie de Zorro, et ressuscité dans les urnes tout neuf pour me casser des burnes. C'est ainsi tel Jacob Creutzfeldt, à la droite de David Rumsfeld, d'où il nous dicte ses lumières, son catéchisme planétaire. Tu as du cœur l'Europe, plus de 500 millions, laisse tomber la merlope, occupe-toi de tes unions. Tu as du cœur l'Europe, plus de 500 millions, laisse tomber la merlope, occupe-toi de tes unions. Tu as du cœur l'Europe, plus de 500 millions, laisse tomber la merloque, occupe-toi de tes unions. Merloque, occupe-toi de tes unions.
écoutez Radio Campus